Dans cette chronique consacrée à l'ONG Avocats sans frontières, nous parlons aujourd'hui de l'impunité sur les violences sexuelles. Nombreuses sont les femmes victimes de viols qui souhaitent entamer une action en justice contre ceux qui s'en sont pris à elles de force. Mais bien des fois, ces femmes sont limitées à cause de la défaillance des systèmes judiciaires et pénitentiaires. Conséquence, plus d'une femme vit dans le silence, car la plupart des cas de violences sexuelles sont restés impunis. Pourquoi et que faire pour mettre fin à cette impunité? Nous en parlons justement aujourd'hui dans cette émission qui est au Capi Action. Et avant de recevoir Maître Dominique Camoindou, le point avec vous, Sheila, puisque vous avez enquêté sur cette question, nous savons qu'on a parlé de ce problème sur les violences sexuelles plus d'une fois. Pourquoi doit-on revenir sur le sujet encore une fois aujourd'hui?
Nicole, il faut savoir que le phénomène violence sexuelle prend de plus en plus de l'ampleur en République démocratique du Congo. Chaque jour, dans différents coins du pays, on enregistre plus d'un cas de violence sexuelle en RDC, où le bilan des années de guerre est catastrophique, avec plus de 5,5 millions de morts. La violence sexuelle s'est déroulée à grande échelle. Et selon l'UNICEF, depuis 1996, des centaines de milliers de femmes et des filles ont été violées. Donc, selon cet organisme des Nations Unies, on estime à plus de 400 000 femmes et jeunes filles qui ont été violées depuis le début du conflit civil en République du Congo. Et pourquoi doit-on revenir sur ce sujet aujourd'hui? C'est tout simplement parce que la plupart des victimes des violences sexuelles vivent dans le silence, car la justice n'est pas toujours de leur côté.
Oui, vous avez parlé de 400 000 femmes et jeunes filles qui ont été violées depuis le début du conflit civil en 1996. Alors, est-ce que vous avez des cas précis à ce sujet?
Nous allons partir d'un cas bien précis pour montrer que la justice ne fait pas toujours bien, n'est pas toujours du côté des victimes des violences sexuelles. Jocelyne, 13 ans, elle a été victime d'un viol en 2007 à Kinshasa. C'était en l'absence de ses parents, son bourreau, un homme de 62 ans, qui était le bailleur à Kinshasa, en a profité pour abuser d'elle. Actuellement, Jocelyne, suit des soins de santé au centre médical Ndanda de Kinshasa. Une enquête a été ouverte au niveau du tribunal de grande instance de Matika à Kinshasa, mais sans les parents de Jocelyne, l'auteur de ces actes est toujours en liberté provisoire, alors qu'il a été jugé et condamné même. Je vous propose de suivre tour à tour les parents de Jocelyne.
Et quand je suis mort au Bayer Nadiso, à Miroki déjà, quand on a eu comité, à jouer le colo moi, au risque de l'évêque de Cambouanate. Moi, en attendant, on a commencé à jouer à 13 ans et demi, justement, papa, on a un peu de moi. Si tout le monde était dans mes colons, que l'évêque de l'évêque de l'évêque, tu as constaté que moi, on a un communauté. Tout le monde est tout le monde, moi, on a un peu papa de Pango Nadiso. Tout le monde est fait dans ses frères, tout le monde
Si vous aussi, vous avez des témoignages à faire, faites-le maintenant, s'il vous plaît, au 081-890-63-94. Il faut nous appeler pour témoigner et on pourra vous enregistrer directement dans cette émission. Alors, en suivant les explications des parents de Jocelyne, l'auteur de cet acte est toujours en liberté provisoire alors qu'il a été jugé et condamné. Une telle situation n'encourage pas les autres victimes à porter plainte.
Oui, c'est vrai que c'est une situation pareille n'encourage pas les autres victimes de violences sexuelles à porter plainte. L'histoire de Justine, elle est regrettable, mais elle est loin d'être unique. En RDC, beaucoup de femmes et filles victimes de viols ont peur de dénoncer leur bourreau et souvent silence l'école. Cependant, en raison de la non-applicabilité des lois actuelles, les victimes des violences sexuelles en RDC sont confrontées à d'énormes obstacles pour obtenir réparation. Cathy Fora, défenseur judiciaire près du tribunal de grande instance et membre du Ménage des droits des femmes à Boutembo dans le Nord Kivu, confirme cette information. Elle donne également des raisons qui poussent les femmes à garder le silence.
Nous avons beaucoup de difficultés plutôt que de faveur dans d'accompagner les gens jusqu'à. Je vais vous dire ici que nous sommes plus en insécurité que quand nous faisons un peu de mystère. Quand les victimes viennent nous voir, il y a par exemple le cas d'une famille, une famille victime qui avait sa fille, la fille s'appelait Foura. Elle s'appelait Foura et cette fille avait été violée et après le viol, elle était morte. Et nous avons été saisis par cette famille, nous avons tout fait, nous avons commencé avec les enquêtes, la police nous a beaucoup aidés, les parquets aussi, et nous sommes tombés sur le présumé bourreau. Nous avons fait toute la procédure normale et l'affaire a été fixée au niveau du tribunal. Comme vous voyez déjà ce qui est dans la ville, ça fait déjà des gens notre cabinet, et ça, il le faisait expressément pour nous montrer qu'il était fort, qu'il avait de l'influence et qu'il avait des gens qui le soutenaient. Il est passé à 4 reprises devant notre cabinet. À un moment donné, il commençait même à nous proférer des menaces, à nous envoyer de messages nous disant que nous allons fuir la ville parce que nous pensons peut-être que nous avons fait quelque chose de spécial. Nous allons fuir la ville. Aujourd'hui, avec cette expérience, beaucoup de victimes de violences sexuelles ne veulent plus la plus qu'on puisse amener leur cas au niveau de la justice. Il faut dire qu'on ne sert plus à rien, qu'on amène quelqu'un au niveau de la justice, qu'il soit condamné, qu'il soit jugé, et que quelqu'un soit après puisse se tirer librement. Donc, on est en train de constater que l'impunité continue à battre son plein.
C'est vrai que le fait que les auteurs des viols soient impunis, ça n'encourage pas les victimes des viols à porter plainte, surtout à cause de la défaillance des systèmes pénitentiaires et judiciaires.
Donc d'ailleurs, pour aller encore plus loin, Nicole, le vendredi dernier, à Lubumbashi, dans le Katanga, 600 cas de violences sexuelles ont été enregistrés dans la province du Katanga depuis janvier 2008. La coordinatrice provinciale de la synergie de lutte contre les violences sexuelles a déclaré que la plupart des dossiers sont en pendant devant juridiction civile et militaire et déplore d'ailleurs la lenteur dans le traitement de ces dossiers et accuse certains magistrats de ne faire confiance qu'aux médecins réquisitionnés par eux-mêmes. Mais de son côté, le procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Lubumbashi condamne ce comportement observé dans certaines instances judiciaires. Lui insiste également sur la vulgarisation de la loi sur les violences sexuelles auprès des populations ainsi qu'auprès des magistrats. Je vous propose d'écouter tour à tour Madame Kabera Bora, coordinatrice provinciale de la synergie de lutte contre les violences sexuelles, et Dieudonné Kanyama, procureur de la République près des tribunaux de grande instance de Lubumbashi.
Au niveau du parquet, si le dossier tombe entre les mains d'un magistrat qui n'est pas concerné à la synergie de lutte contre les violences sexuelles, le magistrat fait traîner les dossiers et il s'arrange pour que les traces puissent disparaître. Ce qui nous indigne beaucoup, c'est du fait que au niveau de la synergie, nous avons les médecins, nous avons les hôpitaux qui accompagnent les victimes. Les médecins font les rapports, mais les rapports doivent être écrits sur la réquisition qui vient du parquet. Les magistrats au niveau du parquet sont leurs médecins. Si les médecins-là ne parviennent pas à établir ces réquisitions, ils font des faux rapports.
Je m'engage également à réprimer sévèrement ce genre d'infractions. Vous savez que le procureur est déterminé, il marche avec cette synergie-là pour que finalement on puisse réprimer ces violences sexuelles. Soyez rassurés de mon engagement, du fait que nous allons tout faire pour que les dossiers ne traînent pas. Le temps de réunir les preuves et le temps de fixer le dossier devant le tribunal. Mais aussi, il faut aider à vulgariser la loi sur le sexuel pour que les victimes comprennent que c'est pour leur protection. Elles ne doivent pas se laisser emporter par certains sentiments et décourager ce genre de comportement.
Vous souhaitez réagir sur cette question? Faites-le donc au 081 070 2050 si vous avez des réactions, des propositions à faire à travers les SMS, bien sûr. Alors, on va évoluer sur la question. Je dis là, nous savons tous que les lois sur les violences sexuelles en RDC ont été adoptées, mais comment expliquer que jusqu'à ce jour, c'est comme si on ne
l'était pas. C'est vrai que les anciennes lois ont été complétées et adoptées même en RDC du côté de l'UNICEF. D'ailleurs, des mesures ont été prises contre les violences sexuelles en RDC. L'un des plus récents programmes est la campagne mondiale Halte au viol de nos ressources les plus précieuses, le pouvoir aux femmes et aux filles de la République démocratique du Congo. Donc, dans le cadre de ce mouvement mené au niveau local, l'UNICEF et ses partenaires locaux apportent une aide aux femmes de toutes les couches de la société pour qu'elles s'expriment sur la violence sexuelle. Dans la résolution 1820 du Conseil de sécurité de l'ONU également, adoptée en juin 2008, le viol et d'autres formes de violence sexuelle peuvent constituer un crime de guerre, un crime contre l'humanité ou un élément constitutif du crime de génocide. Donc, elle facilite également la prise des sanctions contre les auteurs de ces crimes et évalue les coûts politiques, militaires et économiques de ces actes de violence. Mais, comme vous avez dit tout à l'heure, il n'est pas encore possible de mener rapidement une enquête judiciaire indépendante et exhaustive sur les viols et veiller à ce que les auteurs de ces actes soient traduits en justice. Ici, je propose de suivre le point de vue de Jérôme Nongo, il est juriste indépendant.
Si, pourquoi pas. Quand vous allez dans les statistiques de nos parquets, de nos tribunaux, il y a des gens qui sont condamnés. Ils sont condamnés, les affaires ont toujours été menées, et sont en train d'être menées, mais malheureusement avec lenteur pour toutes les causes que j'ai évoquées. Vous comprenez ?
Quelles sont les causes ?
Je dis par exemple la mentalité des Congolais. Une fille qui a été victime d'harcèlement sexuel ou de viol, la famille hésite. Est-ce qu'il faut aller dénoncer? Est-ce que cela ne risque pas de jeter l'opprobre sur la réputation de la famille? Vous savez que le sexe, on n'en parle pas dans notre société à ciel ouvert. Ça, c'est le 1. De 2, la lenteur des enquêtes judiciaires, c'est-à-dire les investigations à ce sujet, compte tenu du mutisme des gens, ne vont pas très rapidement. Et ce qui fait que le parquet ou le tribunal saisi doivent attendre qu'il y ait des preuves pour apporter cela sur la place publique et prendre des décisions réprimées. Et il y a aussi le problème du coût de la procédure. La procédure a un coût. Il faut diligenter les enquêtes, il faut expertiser la personne, il faut faire déplacer les inspecteurs, les officiers de police judiciaire, mais malheureusement la justice aujourd'hui est rendue à la tête de la victime ou des parties, et si la partie victime s'avère être une personne démunie, vous allez comprendre que les choses vont aller de mal en pis. Et enfin, il y a la loi sur les violences sexuelles en soi qui pose problème, parce que vous verrez la définition entre le viol et la différence entre le viol et l'attentat à la pudeur n'est pas de tout aisée. Et même le viol en soi, quand on parle de tout horrifique, c'est une définition d'une clarté obscure, comme je pourrais le dire.
Oui, donc il a relevé trois points essentiels sur lesquels on va revenir avec le maître de l'émission Moineau, qui ne semble pas être d'accord. Allez, je dis alors pour clore ce dossier, quel pourcentage peut-on faire des cas de violence sexuelle en RDC? Vous savez, Human Rights Watch, c'est une ONG internationale des droits de l'homme, a fait une étude là-dessus, mais avec la reprise des hostilités à l'est du pays. Il y a possibilité que le chiffre augmente chaque jour, mais selon cette ONG internationale des droits de l'homme, le problème des violences sexuelles en RDC, c'est un problème grave parce qu'il y a des femmes, vous avez dit tout à l'heure, qui voudraient porter plainte contre ceux qui s'en sont pris à elles de force et de foi, ou souvent même, elles se sont limitées. Et pour tout ce qui est du pourcentage, actuellement, il est difficile de dire exactement combien des cas de violence sexuelle il y en a dans tout le pays, car le chiffre accroche chaque jour. Mais selon cette ONG, on peut estimer à 40 femmes ou bien victimes de violences sexuelles au bas. 40 femmes par jour.
40 femmes par jour.
Alors, on va clore ce dossier avec vous. Je dis, après de donner la parole à nos invités qui sont déjà là, et nous rappelons à tous ceux qui nous suivent à travers le pays qui peuvent intervenir eux également au 081 070 2050 pour des SMS. 081 891 6394 si vous souhaitez réagir directement. Donc là, il faut nous appeler. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je dis à la prochaine.
À la prochaine.
Radio Okapi, un partenariat entre la mission des Nations Unies au Congo et la Fondation Hirondelle, avec l'appui des gouvernements suisses, britanniques, canadiens, suédois, hollandais et français. Okapi.
Nous parlons aujourd'hui de l'impunité sur les violences sexuelles. Vous savez que plus d'une femme vit dans le silence aujourd'hui, car la plupart des cas de violences sexuelles sont restés impunis. Vous avez eu à suivre les témoignages de quelques parents à ce sujet. Beaucoup se posent des questions, notamment que faire pour mettre fin à cette impunité. Nous avons associé à ce sujet Madame Espérance Mawanzo, qui est directrice de l'ONG Observatoire de la Parité. Espérance Mawanzo, bonjour.
Bonjour.
Vous avez à suivre l'entretien qu'on a eu tout à l'heure avec Julie Laure. Peut-être que vous avez une réaction à faire avant qu'on puisse vous poser des questions.
Je viens de suivre toutes les intervenants, comment ils vous ont expliqué par rapport aux violences sexuelles. Ils ont soulevé presque les causes de l'impunité des violences sexuelles. Alors pour nous, dans l'Observatoire, nous dit qu'il y a une cause qui n'est pas toujours prise en considération. Donc c'est la très faible présence des femmes dans le personnel judiciaire. C'est une des causes de l'impunité. Si on voit bien la justice pour les femmes violées dans notre pays, est faite souvent par les hommes.
Oui, donc pour vous, vous estimez que s'il y avait une forte représentation des femmes dans la magistrature, le viol serait réellement puni?
C'est l'une des causes. On est en train de chercher aussi une solution pour faire partir les violences sexuelles dans notre pays. Alors nous, on dit, s'il y avait plus de femmes dans l'appareil judiciaire, cela constituerait vraiment l'accès à beaucoup de femmes victimes de venir vers la justice.
Oui, ça c'est votre point de vue, Espérance Mawanzo. Nous avons également dans ce studio Maître Dominique Amandou de l'ONG Avocats sans frontières. Maître, est-ce que vous partagez le même point de vue que Espérance Mawanzo?
Merci beaucoup, Nicole. Je pense que lorsque une personne connaît nécessairement la gravité de l'infraction et lorsqu'elle est saisie, elle peut, avec un engagement, faire beaucoup plus d'efforts pour aboutir à un résultat et pour aboutir à une efficacité. Je pense que c'est dans ce sens-là que Mme Mawazo intervient, elle va dans ce sens-là. Mais je pense aussi que l'autorité judiciaire doit, quel que soit son sexe, quel que soit son âge ou sa personnalité, faire un effort pour rester au milieu, rester au centre et ne pas passionner les débats judiciaires et ne pas arriver à se sentir elle-même partie au procès. Elle doit faire un effort pour pouvoir garder le juste milieu et pour cela, que ce soit une femme ou un homme, je pense que tout magistrat ou tout acteur est appelé à faire valoir ses compétences et à faire jouer sa conviction et à n'appliquer que la loi et à ne pas mettre des sentiments et de la passion dans la mission de dire le droit.
Oui, mais Maître, tout à l'heure, Jérôme Mongo, en tant que magistrat indépendant, est revenu sur trois éléments importants. Et nous a dit que dans la plupart des cas, les personnes violées ne veulent pas en parler, ne veulent pas parler de leur situation. Il y a également la lenteur au niveau du système judiciaire. Et puis, la loi sur les violences sexuelles, curieusement, ça pose problème. Tout le monde sait que cette loi existe. Les magistrats le savent. Mais curieusement, c'est comme si la loi sur les violences sexuelles n'est pas appliquée, hein, Maître Dominique.
Merci beaucoup, Nicole. Nous constatons sur le terrain, dans la pratique, qu'il y a effectivement beaucoup d'obstacles qui empêchent les victimes de pouvoir accéder facilement à la justice. Et parmi ces obstacles, il y a des obstacles d'ordre culturel. Il y a des personnes, des membres des familles qui continuent à considérer aujourd'hui que la question de viol, la question de sexe est un tabou, il ne faut pas en parler, les gens se résignent pour peut-être pouvoir protéger la dignité de la victime, mais pas faire que la population ou la communauté sache que telle personne a été victime de viol. Il faut créer une éducation à ce niveau-là. Il y a aussi des causes qui sont liées aux structures judiciaires même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous constatons dans la pratique qu'il y a un éloignement terrible, une distance terrible entre la justice et la population.
Pourquoi?
Cette distance est d'une part physique ou matérielle, c'est-à-dire dans l'organisation judiciaire, les tribunaux sont installés pour la plupart dans les centres urbains et que la population est très éloignée. Accéder à un tribunal est à la fois coûteux et demande beaucoup d'efforts pour la victime ou sa famille qui doit se déplacer. Nous connaissons des cas où pour atteindre un tribunal ou un parquet, il faut parcourir 100, 200, 300 kilomètres. Cela est une difficulté d'ordre institutionnel qui permet à ce que les gens n'accèdent pas facilement à la justice. Il y a aussi comme obstacle le manque de confiance en l'institution judiciaire. Nous assistons parfois à une légèreté des magistrats et des acteurs judiciaires dans le traitement des dossiers. Et cela décourage aussi les victimes et leurs familles pour pouvoir accéder à la justice. Donc les causes sont nombreuses et il y a aussi la situation des prisons. La plupart de nos prisons sont dans un état de délabrement avancé. Et nous connaissons des prisons où les gens ne sont là que par leur propre volonté.
Oui.
Et dans ces cas-là, quand on a quelqu'un sous mandat d'arrêt provisoire, il est en détention, après on le voit en liberté. Certains peuvent penser qu'on lui a accordé la détention préventive, mais pourtant il s'est évadé parce que les prisons ne sont pas sécurisées. Mais il y a des cas aussi où on accorde des libertés provisoires de manière très fantaisiste.
Espérance Mawanzo, sachant qu'il y a tous ces obstacles qui limitent même la justice, hein, en RDC notamment, qui encouragent l'impunité sur les violences sexuelles, vous en tant que directeur de l'ONG Observatoire de la Parité, qu'est-ce que vous faites pour aider toutes ces femmes qui sont victimes de viol?
Moi, je peux compléter le maître qui vient de parler tout à l'heure. Lorsque nous parlons de petit nombre de femmes dans l'appareil judiciaire, cela constitue un frein à l'accès des femmes victimes de viol à la justice. Et en plus, ce petit nombre de femmes entraîne fréquemment une mauvaise qualité de l'accueil et de l'écoute des plaignantes par les OPJ et les magistrats. Ouais. Je pourrais aussi citer pour dire que si on voit pendant, avant les procès, comme on venait de suivre tout à l'heure les témoignages des familles, donc les magistrats mettent fréquemment les auteurs présumés de viol, de violences sexuelles en liberté provisoire.
Oui.
Et ce qui accroît considérablement le risque de les voir échapper à la justice, mais aussi de les permettre d'exercer des pressions, soit d'intimidation et des représailles sur leurs victimes. Pendant le procès, souvent, c'est qu'on constate que les magistrats accordent facilement des circonstances atténuantes aux auteurs de violences sexuelles. Et les magistrats ne manifestent que peu d'intérêt pour la protection de la victime des viols.
Mais oui, alors sachant tout cela, à votre niveau, vous représentez tout de même l'Observatoire de la Parité. Donc, quelque part, il y a un dysfonctionnement de la justice. À votre niveau, vous restez bras croisés, vous n'intervenez pas pour changer les choses.
Non, on n'est pas resté bras croisés, justement, c'est pour cette raison que nous avons lancé la campagne Justice pour les femmes. Donc, cela, c'était pour avoir un état de lieu complet de la parité au sein du personnel judiciaire congolais. Et présenter cet état de lieu au ministère de la Justice et au Conseil suprême de la magistrature. Bon, à l'occasion, par exemple, nous menons aussi des actions de sensibilisation à l'occasion des prochains concours de recrutement du personnel judiciaire. Donc, pour pousser les autorités, les décideurs à recruter aussi plus de femmes. Et nous continuons aussi la sensibilisation au niveau des universités. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'il y a beaucoup de filles, il y a beaucoup de femmes dans l'université pour les droits, mais il n'y a pas beaucoup qui continuent vers la magistrature.
Oui, madame Espérance, finalement, on se rend compte que l'Observatoire de la Parité ne se limite que seulement à observer. Est-ce qu'il vous arrive de faire aussi des plaidoyers pour aider les victimes de violences sexuelles?
Mais justement, dans la campagne, si, comme on n'a pas beaucoup de temps dans la mission, si vous rentrez dans notre site www.observatoiredelaparité.org, vous allez voir, donc on lance la campagne,
pour des cas, concrètement, avez-vous pris en charge juridiquement pour aider efficacement peut-être les victimes à rentrer dans leurs droits?
Nous sommes une ONG, donc Observatoire de la Parité, nous ne travaillons pas directement avec les victimes. Nous, on agit, donc s'il y a un problème qui se fait, nous, on agit, on dénonce et on fait les plaidoyers.
Vous vous limitez à dénoncer et le suivi, vous laissez aux autres?
Non, on ne laisse pas les suivis aux autres, on travaille en partenariat avec d'autres organisations qui sont là.
On peut prendre un exemple concret pour peut-être servir d'illustration à tous ceux-là qui nous suivent. Vous avez dénoncé un cas et vos partenaires ont fait le suivi et ça a donné les résultats à escompter. Est-ce que vous pouvez nous en toucher un?
Nous agissons sur une des causes.
Il y a d'autres organisations qui agissent sur les autres causes connues. Nous, notre problème, on est là pour avoir l'appareil judiciaire féminin, si on dit ça.
C'est un combat. Votre combat, c'est juste faire en sorte qu'il y ait plus de femmes dans le système judiciaire.
Oui, c'est un combat qui a commencé, qui va prendre les temps que ça prend.
Le problème, Madame Espérance, le problème, il est beaucoup plus profond. Hein, parce qu'aujourd'hui, si le combat se limite à faire en sorte que les femmes soient beaucoup plus représentées dans le système judiciaire, en amont, il y a ce problème de violence sexuelle sur les jeunes filles. Vous avez suivi notamment le cas de Jocelyne, qui a été violée par...
À 13 ans d'ailleurs.
Voilà, à 13 ans par son bailleur. Et curieusement, son violeur se retrouve en liberté provisoire. Ça vous intéresse pour ça?
Ça, c'est un problème très capital. Vous imaginez si la petite Jocelyne avait été suivie par une femme. C'est là, je ne dis pas que les hommes qui suivent les cas de violences sexuelles, ils font ça très mal. Mais imaginez si elle avait été suivie par une femme magistrate. La femme, là, ce n'est plus aussi à la place des victimes.
Vous pensez que si c'était une femme, ça aurait été différent?
Et ça passe bien?
Oui, oui, oui. Moi, je suis vraiment convaincu. Si c'était une femme, ça allait être vraiment différent. Il y a une maître qui a parlé des magistrats qui...
Oui, et donc, Bawando, Dominique ne semble pas du tout d'accord avec vous. Hein.
Non, je pense que j'ai dit tout à l'heure que la personne qui connaît la gravité de l'infraction peut être touchée et agir avec beaucoup plus d'engagement. Il y a aussi le fait que lorsque une femme est en face d'une autre femme, elle peut s'exprimer beaucoup plus facilement. C'est d'ailleurs pour cela que nous, par exemple, dans le cadre du programme pour faciliter l'accès à la justice aux victimes, nous faisons dans la mesure du possible pour mettre à la disposition des victimes des avocates, des femmes avocates, là où c'est possible. Mais la difficulté en ce qui concerne les systèmes judiciaires, je pense que le combat de la parité est bon, mais on doit savoir que le recrutement des magistrats ne se fait pas comme tous les autres recrutements. Ce qu'il faut faire, c'est d'inciter les femmes à pouvoir déposer leurs dossiers et à faire des avocats, que le recrutement des magistrats s'est fait sur concours. Lorsque après l'issue du concours, la plupart des femmes n'ont pas satisfait, on ne va pas les retenir au nom de la parité, parce que là, on poursuit la parité. Et il y a aussi un autre aspect. Aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quand même des femmes, justement, dans la magistrature. Mais qu'est-ce que nous observons dans la pratique? La plupart des femmes mènent des démarches et se cantonnent pour rester dans les grands centres urbains. Si vous voyez au parquet de grande instance de Kinshasa, Gombe, Matete,
pour les hommes, c'est pareil.
Je vous conseille, c'est très très particulière parce que si vous allez à l'intérieur,
il y a beaucoup de cadets.
Vous allez par exemple en Bandaka, il n'y a aucune femme magistrat. Vous allez au Maniema, la même chose. Hein. Non, dans les grandes villes, il y en a, elles veulent rester là-bas parce qu'il y a les conforts et tout ça. Les hommes, c'est pareil, mais il y en a quand même quelques-uns qui acceptent d'aller. Mais pour les femmes, beaucoup acceptent d'aller. Et c'est difficile qu'on trouve à ces endroits-là, au parquet des Kindu, une femme magistrate qui va être sensible au dossier des femmes. Oui. Je ne sais pas si les femmes n'aiment pas aller là-bas.
On va quand même évoluer dans cette réflexion. Le cas des violences sexuelles constitue quelle matière juridique?
Le cas des violences sexuelles relève du droit pénal. Il est régi par le droit pénal. C'est-à-dire, quand on parle du droit pénal, ça dit qu'il s'agit d'une infraction, d'un fait interdit par la loi et pour lequel il y a une sanction prévue aussi.
Alors, quelles sont les instances habilitées à trancher ce genre de litige quand on se retrouve devant un problème de cas de violences sexuelles où peut-on soumettre ces cas de litige?
Les infractions des violences sexuelles relève de la compétence du tribunal de grande instance. Et lorsque une infraction est commise ou une infraction s'est commise, on peut se rendre à la police ou au parquet pour se plaindre afin que l'on puisse initier des poursuites à l'endroit de l'auteur présumé.
Alors, un bourreau peut-il bénéficier d'une liberté provisoire eu égard de la gravité de l'infraction, comme on vient de le suivre, le cas de Jocelyne, où le bourreau a bénéficié d'une liberté provisoire?
La loi fixe des conditions pour pouvoir obtenir la liberté provisoire et même pour pouvoir placer une personne en détention préventive. Pour des faits très très graves et pour l'intérêt de la justice, on préfère que les personnes qui sont auteurs des infractions graves ne puissent pas bénéficier de liberté provisoire pour que cela ne puisse pas constituer une entrave à la bonne administration de la justice.
Oui. Nous avons quelques réactions qui nous arrivent au 081 070 20 50 à travers des SMS. Et la première question s'adresse à vous, Madame Espérance Lorenzo. Vous êtes toujours avec nous, hein? Allô, Madame Espérance Lorenzo? Alors, on a un petit problème de communication avec Espérance Lorenzo. Est-ce que vous nous écoutez en tant que directrice de l'ONG Observatoire de la Parité?
Je vous écoute.
Oui. Alors, la première question s'adresse à vous. Il y a un auditeur depuis Arros qui nous dit, nous constatons que les filles et femmes qui ont été violées n'ont pas eu de solution avec le tribunal de paix en place. Pourquoi aller encore vers la justice? Nous demande Richard depuis Arros et il précise, seriez-vous prête à encourager les femmes à défendre les personnes violées au niveau de Haru?
Oui. C'est justement les combats communs, ce n'est pas pour un coin bien précis, c'est pour tous les pays. C'est pour tous les pays. Donc, si il y a plus de femmes dans l'appareil judiciaire, donc ça va améliorer la qualité et la quantité de poursuites judiciaires. Nous menons les actions pour que ces femmes ne soient affectées, comme maître a dit. Nous, on a dans notre site, si vous allez là, nous avons des chiffres de femmes, donc il n'y en a pas en province. Donc, les actions que nous menons, c'est pour que les femmes soient affectées dans d'autres provinces, pas seulement qu'elles restent dans les grandes villes.
Maître Dominique.
Oui, je reviens sur la question pour dire effectivement, nous avons parlé tout à l'heure des obstacles à l'accès à la justice pour les victimes. Dans les cas d'espèce, les victimes ne peuvent pas avoir une réponse parce que les crimes ou les infractions des violences sexuelles ne relèvent pas de la compétence du tribunal de paix. Un tribunal de paix ne peut pas statuer sur un cas de viol. Cela échappe à sa compétence matérielle. Le tribunal de grande instance est éloigné. Nous avons parlé de la difficulté des victimes de pouvoir accéder à la justice. Donc ce qu'il faut faire, c'est de mettre, voir comment orienter les victimes, les mettre en contact avec un défenseur judiciaire ou un avocat qui puisse se plaindre ou déposer la plainte au niveau du parquet de grande instance pour que les poursuites soient entamées et que l'on voit comment ordonner une réquisition de la force, un mandat d'amener,
prendre les
auteurs et les amener au tribunal compétent.
Oui, mais qu'est-ce qui fait que la procédure pour établir l'infraction sur la violence sexuelle, elle soit très longue, on ne comprend pas, et pourtant c'est une infraction, comme vous l'avez dit, qui relève du droit pénal.
La procédure n'est pas vraiment longue, parce que la loi, la nouvelle loi portant modification du code de procédure pénale a même écourté les délais pour pouvoir faciliter la célérité en matière des violences sexuelles. Comme on est en train de le dire, les difficultés sont nombreuses. Il y a des difficultés inhérentes au fonctionnement des structures judiciaires. Dans le cas d'espèce, on nous parle d'une situation à Arles. Mais vous allez vous rendre compte que si peut-être à Arles, il y avait un parquet secondaire muni des moyens de locomotion, les parquets peuvent instruire, mettre la main sur l'auteur présumé et l'acheminer devant les tribunaux compétents. Et cela, ce sont des difficultés qui font que les OPJ et les magistrats, là où ils sont, n'ont pas les moyens pour pouvoir mener correctement leur devoir.
Oui, mais maître, comment expliquer que quelqu'un qui a violé une jeune fille de 13 ans soit en liberté provisoire?
Non, ça c'est une situation vraiment déplorable. Je pense que le procureur de la République près les parquets séduits par pour cette infraction qui nous suit, doit vraiment prendre des mesures pour que la situation de la justice, la personne, soit vraiment placée en détention et que le procès puisse aller vite pour que la victime soit, l'intéressé soit, l'auteur soit jugé et que la victime obtienne une réparation, soit jugée et condamnée. Mais on doit aussi dire que pour certaines circonstances, on peut accorder la liberté provisoire, mais la liberté provisoire ne peut pas mettre fin à la procédure. Une personne peut être en liberté provisoire, mais obligée de venir se présenter régulièrement, de se présenter devant les juges qui vont instruire, statuer, les juger et les condamner.
Maître, une chose, c'est qu'il y a tout de même un problème au niveau de la justice, elle ne fonctionne pas très très bien.
Effectivement, ça c'est une réalité.
En République démocratique du Congo, malgré qu'il y a eu ces lois sur les violences sexuelles.
Effectivement, les lois...
Le problème se pose toujours.
Le problème se pose toujours, les lois ont amené une innovation dans la matière, les lois ont montré la volonté du gouvernement,
les modifications,
mais les moyens, comme on dit, il y a une politique, mais on n'a pas les moyens de sa politique. Mais il faut aussi qu'au niveau des magistrats, la hiérarchie puisse être plus vigilante, puisse faire régulièrement des inspections pour voir pourquoi tel dossier prend autant de temps.
Alors peut-être que là, vous allez partager la même idée que Alain Mokengi Chaï depuis Kananga, qui nous dit que, comme la justice laisse impunis les auteurs de viol, la population doit se faire elle-même justice en vengeant ainsi les personnes qui sont violées.
Non, je ne peux pas partager, c'est-à-dire nul n'a le droit de se faire justice, et la justice relève d'un attribut de souveraineté de l'État. Et pour cela, cela doit interpeller aussi bien les autorités gouvernementales que les autorités judiciaires pour qu'elles puissent se rendre compte de la gravité de la situation et de l'importance du rôle qu'ils doivent jouer. Sinon, ils vont mettre le pays dans le chaos.
On va s'arrêter là. Il y a beaucoup à dire sur cette question. On en reparlera encore une fois prochainement. Pourquoi pas avec un responsable au niveau du gouvernement, maître Dominique.
Effectivement, je pense que c'est une bonne chose.
Affaire à suivre. Merci beaucoup.
Le procureur général de la République.
Oui. Merci beaucoup, maître Dominique Amoine, d'avoir été des nôtres pour l'ONG Avocats sans frontières et Florence Moranzo. Nous vous remercions aussi d'avoir intervenu dans cette émission en tant que directrice de l'ONG Observatoire de la parité.
Et merci.
À la prochaine.